les émissions des quartiers.
Pour un outil dédié aux habitants.
On m'a formé comme journaliste.
La radio part à votre rencontre.
À Ivry, il se passe des choses qui sont positives. C'est juste pour en parler. Une radio, je pense que ça doit servir à ça.
Un espace d'expression complètement libre où chacun peut intervenir.
C'est aussi des rencontres, des échanges avec les jeunes, les moins jeunes.
Il faut parler ensemble, quoi. Faut y aller, faut dire toutes ces choses. C'est peut-être un peu ridicule, mais c'est ce qui fait la vie ensemble.
Les émissions des quartiers
sur Principe Actif.
Bonjour à tous, cette émission est proposée par des jeunes volontaires en service civique en Normandie. Nous avons suivi une initiation en radio. Donc nous vous proposons aujourd'hui des sujets comme les tatouages, le recyclage textile, Emmaüs et ensuite la violence conjugale. Cette émission vous est présentée par Lola, Clotilde, Emilia, Justine, Laure, Maëlys, Mallory, Erwan, Lucie, Alicia, Baptiste et Josnel. Et tout de suite, nous commençons par un sujet sur les tatouages.
Nous nous posions des questions à propos des tatouages et quoi de mieux que des experts d'un salon de tatouage pour répondre à nos questions.
Écoutons maintenant cette interview.
Moi, je suis tombé dedans. J'ai commencé à me faire tatouer. Et en fil en aiguille, traîner dans les salons, dans les conventions. Ça m'a donné envie de travailler dans le milieu.
D'accord. C'est comme une passion, en fait.
Voilà. C'est le genre de métier. C'est plus un métier passion que... Si t'as pas la passion avec...
Quelle étude faut faire pour devenir tatoueur ou travailler dans le monde du tatouage?
Ouais, comme je t'expliquais un peu avant, il n'y a pas d'études à titrer. C'est souvent au moins un cursus dans les arts. Il y en a beaucoup qui viennent d'écoles d'art ou autodidactes. Et sinon, après, c'est une formation à l'hygiène à avoir.
D'accord. Quel type de clientèle vient en moyenne se faire tatouer? L'âge, le sexe, vraiment le type de clientèle?
On a quand même pas mal de jeunes. Ouais, comme une bonne partie des jeunes quand même. Genre après l'âge, entre 18 et 25 ans. Après on a un peu plus les clients... On a eu plus, pour 60 ans, plus vieux qu'on a eu.
Est-ce que ça arrive de regretter un tatouage une fois qu'on l'a fait?
Oui.
Et quelle alternative on peut avoir?
Alors, soit ce qu'on appelle le cover, donc le recouvrir par un autre tatouage, soit le laser.
Est-ce que la douleur est un facteur à prendre en compte pour vraiment se faire tatouer? Si on a mal, on n'est pas très résistant à la douleur, est-ce que c'est la peine de se faire tatouer?
Oui, parce qu'on a des clients qui sont un peu douillés. Après, le tatouage, c'est sûr, c'est pas indolore, ça reste... Il faut se dire. Après, c'est vrai qu'il y a des parties qui sont beaucoup plus douloureuses que d'autres. Souvent... Quand les gens viennent et nous disent voilà c'est notre premier tatou, qu'ils nous disent l'endroit qu'ils veulent, et nous on leur dit ouais, si c'est vraiment un endroit où on est sûr qu'elle supportera pas, on préfère lui dire je trouve un autre endroit. Oui c'est douloureux mais ça reste supportable.
D'accord. Comment faites-vous pour faire ressortir la personnalité dans un tatouage?
Je sais que nous on travaille souvent les gens nous ramènent des idées ou des croquis qu'ils ont fait et avec ça on essaye de faire un mix de tout ça c'est de plus coller possible à ce que la personne essaie de nous décrire. Après le problème c'est qu'on n'est pas vraiment dans la tête des gens donc on peut pas, on essaye au mieux de des idées ce qu'ils nous ont donné comme idée quoi.
D'accord. Le prix moyen d'un tatouage, ça coûte environ combien d'euros?
Ça dépend des salons. c'est... Il y a souvent chaque salon a un minimum. Après, c'est souvent par rapport à ce que lui a besoin. Là, je peux pas vraiment dire, quoi.
D'accord. Comment vieillit le tatouage avec la peau, tout ça? Comment ça vieillit?
Alors, après ça, il y a plusieurs facteurs. Il y a comment, si t'en prends soin. Je sais que moi, je mets beaucoup de crème, je les hydrate beaucoup, j'évite le soleil. Il y a tous ces facteurs-là. Et plus après, il y a les peaux. Il y a des peaux qui vieillissent mieux que d'autres. Ça, après, c'est qu'une question de peau. Et de comment tu prends soin aussi. Genre, si tu vois, tu prends du soleil tous les ans. C'est sûr, ton tatou risque de moins bien vieillir qu'une personne voilà, qui évite, qui met de la crème, qui en prend soin. Voilà.
Est-ce qu'il y a des risques sur la santé de se faire tatouer?
Non. Je vois pas vraiment. Moi, ça fait depuis que j'ai 18 ans que je me fais tatouer. J'ai jamais rien eu.
Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui hésite à se faire tatouer?
Alors, s'il hésite déjà, il devrait pas. Non, il devrait pas. S'il hésite, moi, je sais que mes premiers tatous, voilà, je savais que je voulais me faire tatouer dès le collège. Genre, je savais ce que je voulais me faire. Voilà, ça a mûri. Voilà, moi, j'ai eu 18 ans. Voilà, je me suis fait tatouer. Si t'hésites, c'est sûr que tu vas le regretter. Bah, personnellement, moi, c'est ce que je pense. Si t'hésites, le fais pas. C'est vraiment un coup à regretter. Après, moi, je me suis fait tatouer par des choses qui me tenaient à cœur, comme purement esthétique. Genre, j'ai vu un dessin d'un tatoueur qui m'a plu. Voilà, j'ai été le voir. Mais si t'hésites, pour moi, non, faut mieux éviter.
D'accord. Comment ont évolué les mentalités à propos du tatouage?
Je trouve que ça dépend encore. Genre, si t'es juste tatoué, genre un petit truc, ou si t'es beaucoup tatoué, comme moi. Parfois, je marche dans la rue, ou je suis assis sur le muret, je suis ma club, je vois les gens qui changent de trottoir, ou qui me regardent bizarrement, ou qui me posent des questions bizarres, ou qui croient que je sors de prison. Donc, il y a encore des choses comme ça, mais c'est un peu mieux quand même.
Bah, je vous remercie.
C'était donc le salon de tatouage Frix qui était à nos micros.
Des vêtements, nous en avons plein, mais que pouvons-nous en faire lorsqu'ils sont usés ou quand ils ne nous plaisent plus? Nous vous proposons d'écouter notre interview avec Madame Blier, directrice de l'association d'atelier pour l'emploi et la formation des Andelys, qui expliquera la nouvelle vie que nous pouvons donner à nos vêtements.
Bonjour à tous, nous sommes avec Catherine Blier, qui est la directrice de l'atelier pour l'emploi et la formation qui se situe aux Andelys, du nom d'À tout vapeur. Elle participe à une collecte de vêtements directement, et ces vêtements sont notamment amenés à être recyclés. Bonjour Madame Blier, j'aimerais vous demander rapidement de vous présenter, si possible, votre profession et un petit peu votre association.
Oui, alors je suis la directrice et référente socio-professionnelle de l'atelier chantier d'insertion APEF, atelier pour l'emploi et la formation. La boutique que nous avons ouverte à l'enseigne À toute vapeur, et notre activité est donc une repasserie. Donc les particuliers nous amènent leur bannette de linge que nous repassons, nous vendons ce service. Et donc notre deuxième activité, c'est la boutique de vêtements d'occasion.
D'accord.
Donc, cette boutique, elle est alimentée par des dons de vêtements que nous font les particuliers. Particuliers ou entreprises ou associations. Et à partir des vêtements qui nous sont donnés, nous faisons un tri. Nous alimentons la boutique avec tout ce qui est plus beau. Parfois, c'est des vêtements neufs, avec l'étiquette encore dessus. Et tout ce qui n'est pas beau à mettre en vente, nous le Alors, nous le revendons à une société qui est située sur Vernon. Et cette société s'engage, elle, à recycler par matière.
D'accord. Et quand vous recevez un vêtement, que ce soit directement donc à la PEF ou via des collecteurs, j'imagine, quel est le parcours de ce vêtement, en fait ? À partir du moment où on le dépose, que devient-il ? Quel est son acheminement ?
Alors, il y a deux formes de... Vous pouvez faire vos dons sous deux formes. La première, c'est de l'apport volontaire que vous déposez dans les bacs directement à la boutique, donc qui est située au 64 rue du Maréchal Leclerc aux Anglis. Elle est ouverte du mardi au samedi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30. Donc là, vous pouvez déposer vos dons de vêtements. Ils seront triés sur place. Ou vous pouvez faire don de votre vêtement en mettant dans des bornes, dans des containers à textile qui sont installés sur le territoire, sur notre territoire, alors plutôt nord du département. Nous avons 56 containers donc installés sur le territoire, mais aussi dans des déchetteries. Nous avons des conventions avec le SIGOM et le CETOM.
D'accord. Et quelle est cette stratégie de placement de points de collecte, en fait ? Avez-vous vraiment des...
Les bornes, elles sont installées en fonction des demandes des communes. Mmh. Bon, nous, on a sollicité certaines communes et d'autres nous sollicitent, hein, parce que c'est un service de plus à proposer à leurs habitants, donc c'est quand même bien. Et l'objectif, donc, c'est de dire que le textile ne doit plus se retrouver dans les poubelles, parce que le textile, il peut être transformé de différentes façons.
D'accord.
Voilà, donc c'est aussi, faire en sorte de protéger l'environnement. Mmh. Parce qu'il y a certaines matières qui sont très longues
se désagréger peut-être.
Oui, voilà. Donc plutôt que de laisser traîner un vêtement dans la nature, vaut mieux le mettre dans des bornes, mmh, où ça va être trié et recyclé.
Tout à fait, oui. D'accord. Eh bien, je vais laisser la parole à Maïlis pour la suite de l'interview.
Oui.
Donc, bonjour. Ensuite, à quelle fréquence videz-vous vos collecteurs environ ?
Alors, nous avons une équipe de collecte. Donc, nous avons deux camionnettes. Et donc, l'équipe part à trois personnes. Donc, il y a l'encadrant plus deux salariés en insertion. Ils ont détourné, donc chaque semaine, chaque conteneur est vidé.
D'accord.
Voilà. Alors là, on est en période creuse, mais l'été, on peut se rendre deux fois dans les déchetteries, parce qu'il y a énormément de dons de vêtements l'été. Dès les premiers rayons du soleil, les gens vident les armoires, des vêtements d'hiver et remettent des affaires d'été. Donc, c'est vrai qu'on double nos quantités collectées l'été.
D'accord. Et à peu près combien de tonnes représentent les dépôts ?
L'an passé, on a collecté 283 tonnes.
D'accord. Et du coup, est-ce que l'évolution est nette selon les années et progressive ?
Oui, non, je vais pas préparer les chiffres.
Non, mais c'est pas grave, environ.
On a 50 tonnes de plus chaque année à peu près.
D'accord, donc c'est pas mal.
Ah ben oui, c'est...
Et en fonction de ça, est-ce que vous en déduisez que les gens sont assez sensibles au recyclage des vêtements ?
On essaie de sensibiliser les gens, on participe à des journées éco-citoyenneté avec des partenaires, ça peut être organisé par... Il y a une journée au mois de novembre, ça va être la journée des déchets, et donc le SIGOM nous a interpellés pour pouvoir participer. Donc nous aurons un stand et expliquerons ce que deviennent les vêtements après, quand ils sont déposés à toute vapeur. Eh bien, ils trouvent une issue pour être revalorisés, recyclés.
D'accord. Donc, est-ce que vous avez des critères aussi ? en quand vous recevez vos vêtements. Parce que certains doivent être bons, mais d'autres peuvent être plus bons à l'usage.
Parce qu'une fois que les vêtements sont abîmés, on les retraite par matière. Donc on va réunir le coton ensemble, tout ce qui est synthétique, tout ce qui est laine, etc. Et donc de ça, on fait un tri, nous ça part dans une entreprise qui va faire un tri industriel après.
D'accord.
Donc elle va enlever tous les points durs de chacun des vêtements, toutes les fermetures éclair, les boutons, les lanières en cuir, enfin, il faut enlever tous les points durs et après c'est de la matière naturelle. Donc la matière, elle peut être défibrée. Donc ça c'est plutôt en fibre longue, donc on peut refaire du fil. On peut utiliser ces matières, donc effilocher toutes les fibres. Donc si elles sont moyennes, ça va plus vers du thermoliage ou de l'aiguilletage. Il y a possibilité de traiter ces vêtements et de les transformer en plaques plus ou moins rigides pour faire des plaques d'isolation, par exemple. Isolation phonique ou thermique. Hein. Donc on peut faire aussi utiliser des petits matelas qui sont utilisés dans l'industrie automobile pour mettre dans l'habitacle d'un véhicule, où là ça va garder de la chaleur dans le véhicule. On peut également faire de la mousse de calage, hein, c'est-à-dire que c'est utiliser le textile de composition synthétique qui est mélangé. Et donc c'est un produit qui va servir pour envoyer des appareils, des téléphones par exemple, par la poste. Et ben, le téléphone il est calé dans la mousse et il n'y a pas de danger qu'il se trouve abîmé par le transport.
D'accord. Donc chaque vêtement abîmé peut avoir une...
Et ça c'est défibré, hein. C'est bien, on effiloche, c'est-à-dire qu'on enlève tous les fils du tissu pour que ça redevienne du fil mélangé. Et après, on en fait comme des matelas. Hein. Des matelas qui vont pouvoir absorber. C'est une matière recyclée, mais qui est recyclable aussi. Donc ça n'a pas de fin de vie. On peut toujours la déchiqueter et puis la refaire des matelas avec.
D'accord. Donc comme quoi chaque vêtement peut avoir une utilité différente.
Alors, ce sont des matières là après, hein, on parle. C'est des matières de textiles différentes. Hein. Ça peut être du coton, de la laine que l'on va les mélanger et on va en faire des matelas.
D'accord.
De la mousse de calage ou des produits de calage. Ensuite, on peut... Alors, tout à l'heure, je vous parlais, on réextrait le pétrole. Donc là, c'est par fusion. On obtient la regranulation. Et là, c'est du... Alors, toutes les fibres synthétiques, enfin, tous les vêtements synthétiques passent dans une machine. Alors ça, c'est un procédé, quand les vêtements sont mélangés les uns aux autres suivant la vitesse, les molécules vont se coller les unes aux autres, ça va durcir et ça peut donner, ça rend des petites billes de pétrole. Donc on peut leur donner la couleur que l'on veut et après cette matière on peut par fusion, moulage, on peut refaire des capuchons de stylo, par exemple, ou des tabourets en plastique, des tables en plastique, enfin voilà. On peut donner toutes les formes, toutes les couleurs. Ça peut servir dans l'industrie automobile ou sur du matériel électrique aussi, voilà. Et cette matière, enfin les petits granulés que l'on obtient là aussi, mélangés à certaines résines, on peut effectivement refaire des planches à voile, des surfs, on peut faire beaucoup beaucoup de choses.
D'accord. Voilà. Donc je crois qu'on a déjà répondu à la question de combien de personnes se compose l'équipe qui s'occupe.
Alors ça, l'équipe de collecte c'est 3, mais l'atelier d'insertion aujourd'hui a 22 salariés en insertion. Qui travaille entre 26 et 35 heures par semaine. Donc, ils font 20 heures de repassage et 6 heures sur les autres postes de la boutique. Donc, les autres postes de la boutique, eh ben, ce sont le tri des vêtements, le stockage, puisque là, en ce moment, on nous donne des vêtements d'été, donc qui sont stockés dans la réserve par, par saison. Quand la saison est arrivée, on rouvre le carton, on repasse le vêtement, on étiquette, on met en vente dans la boutique. Il y a les postes de conseil aux clients, le poste caisse, et puis voilà pour tous les postes boutique. Donc la finalité, c'est que les personnes en insertion puissent reprendre des habitudes de travail, parce que pour certaines, c'est leur premier emploi. Pour d'autres, c'est une reprise d'emploi parce qu'on a arrêté pour élever les enfants ou parce qu'il y a eu une séparation et il faut retravailler pour subvenir aux besoins de la famille. Voilà, donc les personnes reprennent un travail chez nous et nous, notre objectif, c'est de les conduire, de les mener vers l'emploi ordinaire. Donc on peut passer par des remises à niveau, de la formation qualifiante, on travaille beaucoup avec Pôle emploi, les organismes de formation, de façon à réinsérer le plus de personnes possible. Voilà. Donc on a l'objectif de faire au moins 60% de sorties positives, puisqu'on est conventionné avec la direction du travail et le conseil départemental de l'Eure. En plus de nos vêtements aussi, beaucoup de personnes nous font don de livres, bibelots, vaisselle et petits meubles. Donc nos équipes les trient, les mettent en valeur. Et chaque mois, nous organisons deux braderies à thème. Là, jusqu'à ce soir, par exemple, on a le thème de la braderie est tout en lumière. Donc, c'est l'éclairage sous toutes ses formes. Et puis, on a créé, alors c'est nouveau, un coin gineur avec des objets en cuivre, étain, de l'argenterie, mais aussi des livres d'art et d'histoire.
Quelles sont les autres missions de l'association ?
On travaille en partenariat avec les associations locales, les services sociaux pour aider aussi des familles qui sont dans le besoin et qui n'ont pas forcément d'argent. Et donc on vend vraiment à des prix très bas, on va dire. Un jean pour un adulte, par exemple, est vendu à 3,50 €. Voilà.
Eh bien, nous vous remercions de nous avoir consacré un peu de votre temps et nous vous souhaitons une bonne continuation. Au revoir, Madame Blier.
Au revoir, bonne journée. Au revoir à votre équipe et merci beaucoup.
Voilà, c'était Catherine Blier de l'Atelier pour l'emploi et la formation aux Andelys qui a répondu à un certain nombre de questions très intéressantes. Le recyclage des vêtements n'a donc plus aucun secret pour nous tous à présent.
Et bien nous aussi, nous allons parler recyclage puisque nous sommes allés rencontrer une bénévole d'Emmaüs dans le but d'en savoir un peu plus sur l'action solidaire de cette association.
Je suis Michel, je suis bénévole à l'association d'Emmaüs.
D'accord, depuis combien de temps est-ce que vous êtes bénévole ?
Depuis à peu près 10 ans.
D'accord. Et quelles ont été les raisons pour lesquelles vous avez voulu vous engager dans le bénévolat ?
Alors, c'est le côté social, l'esprit, faire quelque chose d'utile avec des gens qui travaillent.
D'accord.
Est-ce que cela vous tient à cœur, du coup, le Emmaüs, le...
J'aime l'esprit d'Emmaüs. J'aime... ce que fait l'association et le pourquoi on a envie d'aider. Moi, c'est ce qui j'amène un peu beaucoup de mon temps, mais je trouve auprès des compagnons, des compagnes et des compagnons un grand bien-être, un réconfort.
D'accord. Et du coup, Emmaüs, c'est quoi pour vous ? Qu'est-ce que ça signifie réellement ? C'est quoi l'histoire ?
L'histoire d'Emmaüs, l'histoire de l'abbé Pierre, c'est d'avoir érigé, mis sur pied un mouvement qui vient en aide à des personnes qui ont eu un accident de la vie, qui sont plus ou moins défavorisées. Mais que l'on héberge, que l'on nourrit, mais qui travaillent. Il y a une compensation, c'est pas que de l'assistanat. C'est pas que de l'assistanat, c'est aussi un échange, quoi.
Donc, est-ce que vous diriez que le but d'Emmaüs aujourd'hui, là où vous êtes actuellement, c'est vraiment sur les bases que l'abbé Pierre avait fondées ?
On essaye de maintenir tout cet esprit qu'a voulu créer l'abbé Pierre, et puis bah, c'est dans cet esprit-là qu'on est là.
D'accord. Voilà, merci. Quels sont les principaux donneurs au sein de l'association Emmaüs ?
Ce sont les personnes, les habitants de la ville qui ont envie de recycler que des vêtements, des objets, des meubles ne soient pas perdus dès l'instant où ça peut être réutilisé. Ils l'apportent et puis ben, on remet en rayon, on remet dans le circuit. Et puis, il y a aussi des entreprises, des magasins qui donnent des invendus et des fins de série de toutes sortes. Quoi.
Et d'après vous, pourquoi les personnes préfèrent donner à Emmaüs plutôt que de vendre par eux-mêmes ?
Je dirais que dans l'esprit, c'est d'aider la société, des gens qui sont plus ou moins dans le besoin, de les aider à se meubler, à avoir un confort un peu plus
accessible,
voilà. Et puis c'est aussi pour faire perdurer les choses, hein, que c'est de vendre. Alors des fois ça se vend en direct, et puis quand ils peuvent pas le vendre, ils nous l'amènent. C'est peut-être des fois le deuxième choix, mais peu importe, ça revient dans le
et
circuit.
Est-ce à l'heure actuelle, vous avez beaucoup de donneurs ou vous avez du mal à trouver des objets au niveau de... Comment est-ce que vous le ressentez depuis ces années que vous êtes bénévole au sein de l'association ?
Bah, disons qu'il y a une évolution. Il y a une évolution parce que l'on trouve beaucoup de... Notamment au niveau des vêtements, des boîtes relais où on peut déposer. Donc c'est ce qui ne nous revient pas à nous. Mais on a quand même beaucoup de personnes qui nous amènent des choses et puis... Il peut y avoir une petite baisse, mais c'est pas... On a toujours de quoi quand même alimenter la vente. Oui.
Alors, c'est des CD. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 euros, s'il vous plaît.
Merci, merci madame. Ce qui est intéressant de voir, c'est que vraiment, vous avez beaucoup, là on peut le voir à l'heure actuelle, vous avez beaucoup de personnes qui viennent au sein de l'association acheter des choses.
Au niveau de la clientèle,
ouais, voilà, c'est
et
ça,
puis
au
on a des gens fidèles qui sont là à l'ouverture, qui attendent à la porte, au revoir monsieur.
Au revoir.
Qui attendent à la porte l'ouverture, qui viennent sinon tous les jours, au minimum une fois la semaine. Et puis bah, ils viennent sans but précis, viennent fouiller. Mais en
et
général,
finalement, ils repartent.
Ils repartent avec quelque chose.
Du coup, après, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les besoins de la clientèle ? Est-ce que ça, est-ce qu'ils ont, ils sont satisfaits du coup ?
Oui, s'ils reviennent, c'est qu'ils sont satisfaits. Il y en a quelques-uns qui viennent par nécessité. Mm-hmm. Hein. La plupart vient pour le plaisir de chiner, pour l'endroit, pour pour l'ambiance entre guillemets, même si c'est un peu simple, un peu, mais c'est le plaisir de fouiner, de chiner, puis de trouver le truc bon prix quand même.
Oui. Globalement, vous direz que qu'est-ce qui se vend le plus ? Est-ce que c'est plus les vêtements ou est-ce que c'est plus les meubles ?
En chiffres, forcément les meubles. Les coûts sont plus importants, ça fait un chiffre plus important, mais c'est souvent au niveau de ce qu'on appelle nous la fripe,
oui.
C'est ce qui parle le plus.
D'accord.
C'est là où les gens viennent vraiment.
Et les gens qui viennent chez vous, vous ressentez que c'est des personnes qui sont dans le besoin ou c'est plus comme vous le disiez par rapport à la Chine,
Il y a les deux aussi, qui sont en grande précarité, qui sont dans la nécessité d'avoir des associations comme vous pour pouvoir...
Mais il y a beaucoup, c'est une clientèle très variée, mais c'est aussi beaucoup de personnes qui viennent pour le plaisir.
D'accord.
J'aurais une petite question avant, ce serait pour savoir comment Emmaüs fait pour se connaître, comment les gens ils savent qu'il faut venir là,
C'est surtout le bouche à oreille.
Ouais.
C'est beaucoup le bouche à oreille. On fait aussi des actions telles que nous en avons une le week-end prochain au Parc Expo de Rouen, où nous avons tous les collègues de Normandie, quelques-uns de Bretagne. Alors il y a à Rouen, il y a Alençon, Saint-Brieuc, Le Havre, enfin toutes les. Et là c'est dans un hall immense au Parc Expo et puis c'est formidable quoi. Il y a énormément de monde et puis bon bah tout le monde, on est tous ensemble.
Dans la solidarité.
Et complètement, complètement.
Et enfin, dernière question, selon vous, quelle importance a le recyclage, alors globalement, qu'il s'agisse des vêtements ou alors des meubles ou des livres? Est-ce que pour vous, aujourd'hui, c'est vraiment une question majeure?
Ça devrait être une question majeure, c'est aussi une nécessité, parce que... les déchetteries regorgent de toutes sortes de choses. Et puis, avec la façon aussi, notamment sur les meubles, de customiser les meubles anciens, de leur redonner un petit coup de jeune, de leur redonner et de prolonger la vie d'un meuble, d'une chose. Bon, c'est aussi très agréable.
Oui.
Parce qu'on n'oublie pas le passé, mais tout en le modernisant un petit peu.
Totalement.
Et puis, c'est du plus solide.
Exactement. C'est vrai. Bon, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Et pour conclure, est-ce que vous avez une dernière chose à nous dire sur Emmaüs ou en général, vous, qui avez une anecdote ou je ne sais.
Anecdote, ça ne me vient pas à l'idée, mais bon, moi j'appelle beaucoup les personnes qui ont un petit peu de temps. Il n'y a pas besoin de donner tout son temps, un petit peu de temps, de venir aider. On a besoin de monde pour faire le tri, pour faire aider les compagnons, parce qu'on est là en appui des compagnons. Et je pense que c'est humainement enrichissant. Donc, si vous avez du temps, il faut venir nous aider.
Très bien, madame.
Merci.
Je vous en prie.
Alors... Si vous avez du temps et que vous êtes motivé, n'hésitez pas à rejoindre l'association Emmaüs qui a sans cesse besoin de bénévoles.
Donc, nous nous sommes intéressés sur le sujet de la violence conjugale, qui est un sujet qui mérite tout autant d'attention. Donc, nous sommes allés à la rencontre de personnes ordinaires dans le centre-ville d'Évreux.
Je suis contre la violence, 100%.
100% contre. Est-ce que vous voulez bien répondre à ma question? Ça vous évoque quoi le terme violence conjugale?
Je suis seul.
Vous êtes seul?
Taper sur les femmes, non, c'est inadmissible.
C'est horrible pour vous?
Oui, c'est horrible.
La violence peut-elle s'exercer au sein d'un couple, d'après vous?
Je ne sais rien.
Est-ce que ça peut être physique?
Oui, parce que si une homme tape sur sa femme, peut-être qu'elle a fait quelque chose.
Voilà, mais est-ce qu'il n'y a que le physique qui compte? Il y a le moral aussi?
Oui, ça peut être possible, oui.
Les insultes, etc.
Moi, j'ai ma femme qui m'a insulté, moi.
Et d'après vous, comment on pourrait sensibiliser la population?
C'est impossible.
Impossible, d'après vous?
Non.
Alors, si je vous parle de violence conjugale, qu'est-ce que ça vous évoque?
C'est bien trop souvent.
Oui.
C'est scandaleux.
Selon vous, comment la violence conjugale peut-elle s'exercer au sein d'un couple? Sous quelle forme?
Avec la parole, avec la violence, violence en geste.
La violence psychologique aussi.
Oui, c'est ça.
On a regardé qu'en 2016, il y avait 123 femmes qui sont décédées aux violences conjugales. Et selon vous, comment on peut plus sensibiliser la population à ce sujet?
Et du boulot. Mais bon, c'est pas trop, oui. Trop facile. Je sais pas comment.
Il n'y a pas de bonne réponse, hein. C'est juste des idées qui vous viennent.
Faciliter
les dépôts de plaintes. Ce serait déjà s'il y avait un accueil.
Une question sur Internet de faciliter un peu la chose pour d'autres cas, mais enfin, ça pourrait se faire aussi.
Oui.
Enfin, peut-être faire plus de. On n'appelle pas ça de la pub, mais de d'annonces à la télévision. Peut-être des panneaux publicitaires, pas publicitaires, mais des panneaux d'affichage.
Donc, si je vous parle de violence conjugale, qu'est-ce que ça vous évoque?
Deux compagnons ensemble qui se frappent, ou une personne qui frappe, qui fait de l'intimidation.
Il n'y a pas que les femmes, il y a aussi des hommes. On parle plus des femmes que des hommes, généralement.
Alors que c'est aussi compliqué pour les hommes, parce que pour pouvoir porter plainte, s'il y a plus de moqueries,
c'est un peu plus de discrimination. Tabou aussi à parler.
Ouais.
C'est pas souvent facile que les victimes m'en parlent. Alors, je dis ça d'un point de vue, moi je suis infirmière, donc
d'accord.
J'ai ce point de vue-là.
Et du coup, la violence conjugale, d'après vous, ça s'exerce sous quelle forme au sein du couple ?
Psychologiquement, physiquement, ouais. Matériellement,
de partout. Hein.
Par la manipulation, tout. Quand on prive quelqu'un de biens personnels, c'est psychologique, c'est matériel, c'est pas forcément avoir des bleus, hein, donc ça est aussi de la violence conjugale.
Et comment, selon vous, on pourrait plus sensibiliser la population à ce sujet ?
En parler plus, je pense que maintenant on devient de plus en plus ouvert à différents sujets. Donc en parler plus et rendre les choses moins taboues, plus réalistes pour certains.
Qu'on ait plus de moyens aussi de faire quelque chose, que généralement les gens vont pas porter plainte ou quoi que ce soit en disant oui mais je travaille pas, je fais pas ça, je suis dépendante de lui.
Ils ont peur des répercussions sur leur vie en fait.
De par exemple s'il y en a qui trouvent que c'est humiliant alors que c'est pas leur faute. Beaucoup se sentent coupables par rapport à ça.
Oui, juste en parler plus en fait. Je pense que plus on en parle, moins c'est tabou et plus c'est facile d'agir en fait. Avant, il y a quelques années, c'était tabou l'homosexualité. Maintenant, on en parle, on en voit et ça, c'est bon, ça choque plus. Donc,
c'est vrai.
Je pense qu'il faut aussi beaucoup en parler à la nouvelle génération parce que ça va être plus facile par rapport à des adultes de les convaincre. C'est un peu bête, mais il faut un peu plus les formater que les adultes qui sont déjà bien dans leurs principes, leurs mœurs.
C'est plus facile à instaurer dans la nouvelle génération que dans l'ancienne.
On est déjà plus ouvert d'esprit que l'ancienne.
Oui.
Voilà.
Voilà. Que vous évoque le terme violence conjugale ?
Le non-respect de la personne.
Comment la violence peut-elle s'exercer au sein d'un couple ?
Oui, la violence morale autant que physique, les deux. Pour moi, c'est autant aussi fort l'une que l'autre.
D'accord. En 2016, 123 femmes sont décédées suite à des violences conjugales. D'autres, comment pourriez-vous nous sensibiliser la population ?
Il faudrait déjà qu'elles se plaignent le plus possible, qu'elles aillent peut-être voir plus leur médecin plutôt que la police si ça leur convient davantage. Et puis qu'après, les choses se suivent vers la police, bien évidemment.
D'accord.
La
violence, c'est pas gentil.
Non, c'est pas que c'est pas gentil, c'est de la violence. C'est pire que pas gentil.
Et voilà, c'était le micro-trottoir des Hébroïciens. Merci à ceux qui ont pris le temps de nous répondre et bonne journée.
Cette émission vous a été proposée par Lola, Clotilde, Emilia, Justine, Laure, Maïs, Mallory, Erwan, Lucie, Alicia, Baptiste et Josnel. Merci pour votre écoute et à très bientôt.
Les émissions des quartiers.
C'était impressionnant quand même.